Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Eh bien nous voilà arrivé le moment de passer un peu de temps dans la parole. Et ce matin, notre méditation s'intitule « La patience dans les épreuves ». La patience dans les épreuves. La vie d'un homme est un mélange de félicité et d'adversité, nous le savons tous. Nous aimerions que la félicité soit pour tous les jours. Mais ce n'est pas ainsi. Nous passons par des moments de félicité, oui, mais aussi par des moments d'adversité. La souffrance est le lot commun de tous les hommes, et cela à cause du péché. Nous vivons dans un monde déchu, et quand le péché est entré dans le monde, la souffrance est entrée aussi dans le monde, et la mort aussi. L'Ancien Testament parle de cette souffrance quand Job dit par exemple au chapitre 5, « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. L'homme naît pour souffrir. » Et Job en sait quelque chose. Il a perdu ses biens, sa famille, sa santé, une fois, et son état de santé s'est encore aggravé une deuxième fois, et il a même perdu la confiance de son épouse. Mais le Seigneur l'a restauré. Le Nouveau Testament aussi parle de la souffrance, et le Seigneur a dit à ses disciples, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Paul et Pierre aussi en parlaient. Et Paul disait dans Actes chapitre 14 verset 22, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons vu ce matin dans Apocalypse les champs dans le ciel quand les rachetés sont réunis auprès du Seigneur. Mais avant ce moment de félicité complète sans nuages, il y a un temps de pèlerinage sur cette terre où la souffrance nous accompagne. Elle est voulue par Dieu. Elle est permise par Dieu. Et Pierre dit, mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est le lot de tous les hommes, la souffrance. Mais en plus des épreuves normales de la vie, les croyants font face à des difficultés supplémentaires que les non-croyants ne connaissent pas. Les croyants sont persécutés de diverses façons parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils sont à Jésus-Christ, ils ne sont plus de ce monde. Ils ne sont plus des enfants de ténèbres, ils sont des enfants de Dieu, et par là, ils sont persécutés. Ils subissent toutes sortes d'épreuves par les hommes, par les circonstances, et Dieu permet ces choses. Et le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, en parle, des souffrances des croyants. Le croyant peut mal réagir à la souffrance. Personne n'aime passer par des épreuves. Tout le monde aimerait que ce soit la joie, la facilité, la félicité tout le temps. C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte à être patient, quelle que soit l'intensité de l'épreuve, quelle que soit sa durée. Ce matin, la parole de Dieu veut nous encourager à être patient dans nos diverses épreuves. Et peut-être vous ce matin qui êtes là, vous souffrez d'épreuves dues à la maladie, à des situations qui durent déjà 2 jours, assez longtemps. Et la parole de Dieu veut nous encourager ce matin à être patient dans l'épreuve, quelle que soit son intensité et sa durée. Et nous allons considérer ce matin ce qui a été dit à des croyants qui passaient aussi par des épreuves. Nous allons considérer les exhortations qui sont données à des croyants qui supportent une épreuve difficile, la persécution. Et je vous invite à prendre Jacques chapitre 5 pour que la parole nous instruise à être patients dans les épreuves. Jacques chapitre 5, nous commencerons au verset 1 et nous irons jusqu'au verset 11. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, verset 1, « À vous maintenant, riches, pleurez. » À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin qu'on ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Voilà, nous considérons ce matin les versets 7 et 11. Et tout d'abord, les croyants sont exhortés à être patients en gardant à l'esprit l'avènement du Seigneur. C'est notre premier point sur la patience dans les épreuves, et nous lisons cela au verset 7 et 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Dans le plan de Dieu, le prochain événement est l'avènement du Seigneur, le retour de Jésus-Christ. Il a été fait mention de l'avènement du Seigneur trois fois, dans les versets 7 à 11, au verset 7, 8 et 9. Et vous avez vu combien de fois aussi il a été demandé d'être patient. Soyez patient, frère, le laboureur attend, prenant patience jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de l'arrière, de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patient. Patient dans l'épreuve, et les croyants, dans cette première partie, sont exhortés à être patients dans l'épreuve, en gardant à l'esprit l'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur est bien plus qu'une arrivée, c'est bien plus qu'une venue. Le mot avènement contient l'idée forte de présence. Avènement et parousia est dérivé de parémie, et ça veut dire être présent. On utilisait ce terme pour parler du moment où un roi s'asseyait sur son trône. On utilisait aussi le mot avènement lorsque quelque chose de nouveau devient très important. Nous parlons par exemple de l'avènement de l'ère informatique, l'avènement du numérique. Ce sont des choses nouvelles qui sont importantes, qui imposent une nouvelle vision du monde et de nos actions. Le grand espoir de l'Église est l'avènement de Jésus-Christ, lorsqu'il viendra bénir son peuple par sa présence. Lors de son avènement, le Seigneur rassemblera et enlèvera les croyants. Les croyants seront alors délivrés de ce monde avec toutes ses difficultés. Lisons cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Donc tournons nos pages un peu avant. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous commençons au verset 15. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. L'avènement du Seigneur est une consolation pour les croyants qui sont éprouvés de diverses manières. C'est une source, l'avènement du Seigneur est une source de réconfort pour les croyants qui traversent toutes sortes d'épreuves. Paul va écrire aux Romains, Romains chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et dans la deuxième épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 18, Paul dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » L'apôtre Pierre, quant à lui, encourage les croyants avec le même thème de l'avènement du Seigneur. Et je vous invite à prendre 1 Pierre avec moi, 1 Pierre chapitre 1, pour voir le réconfort qu'apporte l'avènement du Seigneur. Donc 1 Pierre chapitre 1. On commencera au verset 3. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. On peut commencer au verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Voilà, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Voilà, et l'avènement du Seigneur nous encourage à être patients dans ces diverses épreuves que Dieu permet. Pour encourager encore les croyants à attendre patiemment l'avènement du Seigneur, Jacques va utiliser une illustration. Retournons dans Jacques. Jacques chapitre 5, et regardons l'illustration qui est donnée au verset 7. Donc, Jacques précisait, « Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Et l'illustration qui vient, c'est celle-là. « Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Si vous êtes un cultivateur, un laboureur, vous semez, vous arrosez, vous prenez soin de vos plantations parce que vous attendez une précieuse récolte. Vous attendez que ce que vous avez planté porte beaucoup de fruits. C'est votre gagne-pain. Et là, il nous est parlé, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Et vous savez comme moi qu'une bonne récolte dépend de nombreux paramètres que le laboureur ne maîtrise pas. C'est Dieu seul qui contrôle le soleil et la pluie. Et on voit aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, que tantôt on a beaucoup de pluie, ou tantôt on a trop de soleil. Il peut aussi y avoir de la grêle, tout ça, le laboureur ne le maîtrise pas. C'est Dieu seulement qui maîtrise ces choses. Et c'est Dieu qui maîtrise les bonnes choses, le soleil et la pluie. Le laboureur doit donc prendre patience jusqu'au jour de la récolte, parce qu'il ne sait pas ce qui se passe entre le temps où on sème et le temps où on va récolter. Pour montrer donc que le laboureur doit patienter un certain temps, Jacques mentionne les pluies de la première et de l'arrière-saison, au verset 7. En Palestine, les pluies de la première saison arrivent à l'époque des semailles, en automne, et les pluies de l'arrière-saison arrivent juste avant la récolte. Alors Jacques va dire à ceux qui souffrent, « Vous aussi soyez patients. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison, du début à la fin. Il doit être patient. De même donc que le laboureur attend patiemment jusqu'au jour de la récolte, ainsi les croyants doivent attendre patiemment l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Jacques va ajouter à son exhortation ces mots: vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, au verset 8, car l'avènement du Seigneur est proche. Affermissez vos cœurs. Ceux qui sont sur le point de défaillir à cause des persécutions doivent affermir leur cœur. Ils doivent se fortifier d'une façon résolue avec l'espérance de l'avènement du Seigneur. Il faut être fermement convaincu de l'avènement du Seigneur et y trouver l'affermissement pour son cœur afin d'être patient pendant qu'on traverse les épreuves diverses et variées. Dans d'autres portions des Écritures, l'affermissement spirituel est mentionné comme étant l'œuvre du Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 14, on peut lire: je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est l'œuvre de Dieu dans nos cœurs, de nous fortifier. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 12 à 13, on lit aussi: que le Seigneur affermisse vos cœurs. C'est encore l'œuvre de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 16 à 17 aussi. Et on peut prendre 1 Pierre. Eh bien, regardons 1 Pierre, comment le Seigneur affermit nos cœurs. Il y a juste à tourner la page après Jacques, 1 Pierre chapitre 5. Où on lit au verset 10, Jacques, 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Voyez, il y a toujours cette idée de l'avènement du Seigneur, d'être avec lui. Donc le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur nous fortifie, il affermit nos cœurs, mais là, dans ce passage, affermir son cœur, c'est l'histoire, c'est l'affaire du croyant, c'est la responsabilité du croyant. La parole de Dieu met toujours ensemble, et d'une façon qu'on ne comprend pas, il y a une tension entre la souveraineté de Dieu, Dieu qui est souverain, qui agit comme il veut, avec qui il veut et comme il lui plaît, et aussi le croyant qui doit aussi être responsable de certaines choses. On peut lire ça, si vous voulez, dans Philippiens, chapitre 2, rapidement, et on revient à Jacques. Donc on tourne, Philippiens, chapitre 2, pour voir que les deux vérités sont mentionnées dans la parole de Dieu, la responsabilité de l'homme et la souveraineté de Dieu. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 12. Philippiens, chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. On aurait pu dire, on s'arrête là, Dieu va tout faire, on n'a rien à faire. Mais il ajoute, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Il a dit d'ailleurs, mettez en œuvre votre salut au début du chapitre 12. C'est parce que Dieu agit en nous, parce que Dieu est souverain dans nos vies, que nous pouvons agir aussi. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de ne pas avoir couru en vain ni travaillé. Voilà. Donc, c'est le croyant doit affermir son cœur. Vous aussi, soyez patients, car l'avènement, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. En appliquant l'illustration du laboureur au croyant éprouvé, Jacques veut qu'il n'oublie pas que tout problème est temporaire, toute épreuve est temporaire. Cette épreuve prendra fin lors du retour du Seigneur. Toute difficulté prendra soin avec l'avènement du Seigneur. C'est le message d'espoir pour l'Église de tous les temps. Et nous a dit, l'avènement du Seigneur est proche, souligne Jacques, car l'avènement du Seigneur est proche à la fin du verset 8. Personne ne sait quand le Seigneur va revenir, peut-être aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes réconcilié avec lui? Dieu offre à tout homme le salut gratuitement par grâce, par le moyen de la foi. Il faut croire simplement, quoi qu'on ne peut pas racheter son âme par nos œuvres, notre religion, nos bonnes œuvres, notre moralité, parce qu'on est pécheur de nature, mais Dieu a fait le nécessaire pour qu'en Jésus-Christ, toute personne qui place sa confiance dans le sacrifice substitutif de Christ puisse avoir la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut est gratuit, il est par grâce, par le moyen de la foi. Le Seigneur peut arriver à n'importe quel moment, peut-être cet après-midi, peut-être ce soir, et c'est le prochain événement dans le plan de Dieu. L'avènement imminent de Christ a toujours été l'espoir de l'Église. On peut lire dans Romains chapitre 13, verset 12, la nuit est avancée, le jour approche, le jour du retour du Seigneur, Romains chapitre 13, verset 12. On peut lire aussi dans Hébreux chapitre 10, verset 25, on peut juste jeter un œil dans Hébreux chapitre 10, verset 25, c'est tout à côté de Jacques. Donc Hébreux 10, verset 25, on peut commencer au verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour où le Seigneur revient nous chercher. Pierre aussi disait cela, la fin de toutes choses est proche, et dans l'Apocalypse, verset 22, chapitre 22, verset 20, oui, je viens bientôt. Le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Les croyants sont encouragés par l'avènement du Seigneur qui mettra fin à toutes leurs souffrances. Le retour du Seigneur, l'avènement du Seigneur doit donc produire la patience chez les croyants éprouvés. C'est la première chose. Mais il y a une autre chose qui doit produire la patience. Une autre chose doit avoir le même effet que la considération de l'avènement du Seigneur. Soyez donc patients, a dit l'apôtre, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Mais il rajoute quelque chose au verset 9, un deuxième élément qui doit nous rendre patients dans l'épreuve. Et le verset 9 nous dit, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. » Le deuxième élément qui doit nous encourager à être patients dans l'épreuve, c'est le jugement du Seigneur. Le croyant qui passe par des épreuves peut perdre patience. Il peut s'irriter, il peut devenir amer. Il peut devenir amer parce qu'il voit que d'autres sont épargnés alors que lui souffre. Il peut être aussi irrité parce que, eh bien, des hommes lui font souffrir toutes sortes de choses. Même, ça peut même venir de la part de frères et sœurs qui font souffrir d'autres frères et sœurs à cause du caractère, à cause de plein de choses. Eh bien, nous avons vu que l'espérance de l'avènement du Seigneur console dans les épreuves, nous soutient dans les épreuves parce que nous savons que nos épreuves ne sont pas pour tout le temps, et que lorsque le Seigneur reviendra, eh bien, toutes ces souffrances seront terminées. Nous pourrons louer, comme on a vu dans l'Apocalypse. C'était le premier point. Mais Jacques décrit ici le Seigneur comme le juge qui s'apprête à entrer au tribunal. Le fait que le Seigneur revienne pour juger les vivants et les morts doit faire réfléchir ceux qui se plaignent dans les épreuves. De Timothée, je vous lis simplement, ne cherchez pas. De Timothée, chapitre 4, verset 1 à 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Jacques nous dit pourquoi il faut éviter de se plaindre des autres. Il nous dit c'est afin de ne pas être jugé. Verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Voilà, on peut être agacé, découragé par les épreuves et se plaindre des autres, mais savoir que le Seigneur revient, savoir aussi qu'un jour, il va juger nos œuvres, et bien ça doit nous encourager à prendre patience dans nos difficultés, dans nos épreuves. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur seront jugés aussi. Ils seront jugés et condamnés à cause de leurs péchés. Ils n'ont pas été réconciliés avec Dieu. La colère de Dieu demeure sur eux. Les croyants aussi seront jugés, mais pas à cause de leurs péchés, parce que Christ a déjà subi à la croix le châtiment que mérite leur offense, leur péché. Romains chapitre 8, verset 1 nous dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Mais le croyant va être jugé, ce sont ses œuvres qui vont être jugées. Regardons ça dans 1 Corinthiens chapitre 3, pour voir que ce sont nos œuvres qui vont être éprouvées par le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 15. Je commencerai au verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. On peut tourner la page. 1 Corinthiens chapitre 4. C'est Paul qui parle. On commencera au verset 1, même si c'est le verset 5 qui nous intéresse. Donc 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins du cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Voilà, les croyants, sont les œuvres du croyant qui seront éprouvées par le Seigneur. Apocalypse 22, verset 12, je vous lis, « Voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Jacques souligne encore l'imminence de l'avènement de Christ pour juger nos œuvres. Voici, le juge est à la porte. Jacques chapitre 5, verset 9. Voilà, donc nous avons vu qu'il y a deux aspects de l'avènement de Christ qui devraient produire la patience dans les temps d'adversité. Tout d'abord, l'avènement du Seigneur comme la fin des souffrances. Quand Christ viendra nous chercher, là sera la fin des souffrances. Donc on peut être patient. Et l'apôtre Paul dit... Mais ces souffrances qu'on souffre dans le temps présent sont peu de choses à côté de toute la gloire qui nous attend avec le Seigneur. Et il disait aux Corinthiens que ces petites souffrances que nous avons dans le temps présent produisent pour nous dans toute mesure un poids éternel de gloire. Donc on peut être patient et attendre le jour où le Seigneur viendra nous chercher. Et puis, on a vu aussi qu'on est encouragé à être patient dans l'épreuve parce que finalement, celui qui juge les œuvres de chacun, c'est le Seigneur, ce n'est pas les hommes. Et on a beaucoup critiqué l'apôtre Paul, disant qu'il n'était pas un vrai apôtre. Et voilà, on peut subir beaucoup de critiques par rapport à ce qu'on fait, mais Dieu seul a l'étalon parfait qui connaît la valeur des œuvres de chacun. Donc, là aussi, on doit être encouragé à être patient dans les épreuves et ne pas se plaindre des uns des autres, même si on est critiqué, même si on est agacé, même si certains frères et sœurs nous rendent la vie plus difficile, on doit être patient. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le jugé là. Donc, l'avènement de Christ comme jugement de nos œuvres, c'est lui seul qui pourra éprouver nos œuvres. Donc, nous avons vu déjà ces deux éléments, mais il y a un troisième élément que Jacques va mentionner, propre à encourager le croyant qui passe par l'épreuve. Jacques continue d'encourager les croyants à supporter les souffrances en prenant l'exemple des prophètes. Et c'est le verset 10 qui nous dit ces choses. Revenons à Jacques, chapitre 5, verset 10. Et voyons comment Jacques nous encourage par l'exemple des prophètes. Verset 10. « Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Voilà un exemple qui doit nous encourager à être patients dans l'épreuve. Si vous avez lu la Bible un temps soit peu, vous savez que les prophètes de Dieu, les porte-paroles de Dieu, les serviteurs de Dieu ont été souvent éprouvés. Les prophètes sont de bons exemples. Parce qu'ils étaient les porte-paroles de Dieu, ils ne transmettaient que la vérité et pourtant, ils ont connu la souffrance aussi. Ils faisaient la volonté de Dieu et pourtant, ils étaient persécutés. La persécution des prophètes, le rejet des porte-paroles de Dieu, c'est le thème tragique de l'histoire d'Israël. En Matthieu chapitre 23, verset 31, Jésus parle des pharisiens comme les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Dans le même chapitre de Matthieu, Matthieu 23, le Seigneur décrit Jérusalem, symboliquement toute la nation d'Israël, comme la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui l'y sont envoyés. Voilà, Dieu envoie des gens, des prophètes, pour dire la vérité, pour montrer le chemin, le bon chemin à suivre, et ces personnes sont persécutées. Étienne, par exemple, dans Actes chapitre 7, verset 52, a dit aux membres du Sanhédrin, « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du Christ, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. » Actes chapitre 7, verset 52. Moïse, le porte-parole de Dieu, au temps de l'Exode, a supporté les Israélites au cours raide. Élie aussi a fait face à l'adversité, avec le méchant roi Achab. Il a souffert de la sécheresse. Mais Dieu a pris soin de lui. Il lui a donné la victoire sur les prophètes de Baal. Les prophètes, ils nous encouragent parce qu'ils nous rappellent que Dieu prend soin de celui qu'il envoie. Dieu prend soin de nous lorsque nous souffrons pour son nom. Jérémie, le prophète Jérémie, a connu l'opposition dans l'exercice de son ministère. On lit ça dans Jérémie. Il a tellement été attristé qu'il est connu comme le prophète qui se lamente. Il a été jeté dans ce puits pour qu'il meure. Il y a plein d'endroits dans Jérémie où on voit qu'il a été éprouvé. Mais Dieu a nourri Jérémie et l'a protégé durant tout le long siège de Jérusalem. Ézéchiel et Daniel aussi, on a lu déjà, on a étudié un peu Daniel, ont eu leur lot de difficultés, mais le Seigneur les a délivrés. Osée, Amos, Jean-Baptiste, qui était le précurseur, qui ouvrait le chemin pour le Seigneur, lui aussi a été persécuté. Hébreux chapitre 11, loue une nuée de témoins qui ont été fidèles dans la foi. Ils n'ont pas tous été délivrés. Certains ont été délivrés. Regardons Hébreux chapitre 11. Eh bien, prenons notre Bible dans Hébreux juste avant, Jacques, pour voir ça. Alors, il y a là toute une galerie d'hommes qui ont marché par la foi, Abraham et d'autres, Moïse. Et on lit Hébreux chapitre 11, verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après que l'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérir de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés aux tourments et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc d'autres ont été délivrés, mais d'autres n'ont pas été délivrés. Mais le Seigneur a veillé sur eux, ils sont restés fidèles au Seigneur. La patience de ces prophètes dans les épreuves doit nous encourager nous aussi. Ce sont tous les témoins qui nous ont précédés, tous les témoins qui ont marché par la foi. Et Hébreux chapitre 12 conclut au verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Voilà, nous avons une nuée de témoins dans tous ces hommes, mais le témoin par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes encouragés à, bien sûr, considérer tous ces témoins dans Hébreux chapitre 11 et dans toute la parole de Dieu, mais à garder les yeux fixés sur celui qui les a conduits. Le Seigneur lui-même a conduit tous ces hommes à être fidèles dans la foi, à avoir les yeux fixés sur Christ. C'est sur lui qu'on doit avoir nos regards fixés. Et nous a dit au verset 3, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Voilà. Donc l'exemple des porte-paroles de Dieu et du Seigneur par excellence doit nous encourager à être patients dans les épreuves que nous traversons. L'apôtre Jacques va terminer par un quatrième paramètre qui doit nous encourager à être patients dans l'épreuve. Il va nous donner l'exemple de Job. Et Job, l'exemple de Job doit nous aider à être patient dans l'épreuve. Et l'exemple de Job nous aide à considérer le but de l'épreuve. Pourquoi Dieu permet que nous soyons éprouvés? Est-ce que ça, c'est inutile dans le plan de Dieu? Est-ce que nous souffrons inutilement? Et nous posons souvent la question, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi permets-tu cela? Et des fois, ça dure. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi. Lisez Job et vous verrez que Job a été durement éprouvé. Et lisons ce que Jacques dit de Job, et l'exemple de Job doit nous encourager. C'est le dernier point de notre méditation de ce matin. Jacques chapitre 5, verset 11. Je vous laisse arriver à Jacques chapitre 5, verset 11. Voici. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. On peut garder un doigt dans Jacques et allons faire un tour dans Job. Donc dans l'Ancien Testament, allons voir Job au chapitre 1. Donc Job, c'est après Esther et avant les psaumes. On lit au verset 1, dans Job, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et on voit au verset 8 du même chapitre 1, verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et on voit que eh bien, Satan va dire à Dieu, « Mais tu sais, Dieu, Job entretient avec toi une foi commerciale. C'est parce que tu le bénis qu'il te suit. Mais enlève tout ça et tu verras qu'il va te renier en face. » Et c'est Dieu laisse la permission à Satan d'éprouver Job et dit seulement « Tu ne toucheras pas à sa vie. » Et effectivement, Job va perdre ses serviteurs, ses animaux et ses enfants. Et au verset 20, nous lisons, quand Job entend toutes ces mauvaises nouvelles qui viennent les unes après les autres, au verset 20, nous lisons, « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Et il va avoir une deuxième épreuve pour Job. Il va être atteint d'une maladie de la tête aux pieds. Et on lit au verset 7, « Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. » Job chapitre 2, verset 7 maintenant. « Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter, s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne péchera point par ses lèvres. » Voilà, la Bible nous laisse ce témoignage de Job qui a vu que Dieu donne, mais Dieu peut reprendre. Et il nous a dit que, eh bien, Job a béni le nom de l'Éternel. Et regardons la fin. Job. Allons à la fin du livre. Chapitre 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kesita et un anneau d'or. Voilà. Il le plaignait, le conseillait de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Ce n'est pas par hasard, c'est pas arrivé par hasard. C'était permis par Dieu pour que Job le connaisse davantage. Et quand on lit après, Job a été richement béni. Voilà. Et nous lisons, nous revenons dans Jacques, chapitre 11. Voici. Nous disons « Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » La fin que le Seigneur accorda à Job est une source d'encouragement pour nous qui passons par toutes sortes d'épreuves. Paul aussi est passé par toutes sortes d'épreuves. Et le Seigneur lui a accordé une plus grande connaissance de son Sauveur et de son Seigneur. Des fois, ça peut être la guérison, ça peut être plus de biens matériels, mais on peut aussi simplement avoir du Seigneur la grâce de supporter l'épreuve et de lui rester fidèle. Satan voulait détruire la foi de Job par l'épreuve. Dieu, au contraire, a éprouvé cette foi. Il l'a testé, l'a purifié, l'a fortifié, Job, dans l'épreuve. Comme le dit l'apôtre Paul, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Romains chapitre 8. Verset 28. Il nous a dit ensuite une dernière chose qu'il ne faut pas oublier à la fin du verset de Jacques, chapitre 11, « Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 22 à 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ô que ta fidélité est grande. » Jacques termine son exhortation à supporter patiemment les épreuves avec un rappel du caractère de Dieu. Notre Dieu, celui qui permet l'épreuve, est un Dieu plein de miséricorde et de compassion. Nous pouvons donc supporter l'épreuve que Dieu permet pour notre vie. Il veut nous transformer à sa ressemblance. Il veut que notre caractère ressemble à celui de Jésus-Christ. Les Écritures donc nous exhortent à être patients lorsque nous traversons l'adversité. Le croyant peut supporter patiemment toute épreuve, toute souffrance, toute persécution en, premièrement, gardant ses pensées sur l'avènement du Seigneur. Quand il reviendra, nous serons délivrés de toute difficulté et nous serons aussi récompensés pour tout ce qui a été fait pour sa gloire. Nous allons aussi être patients dans l'épreuve quand nous suivrons l'exemple laissé par les fidèles serviteurs du Seigneur, les prophètes Job, les apôtres. Ils ont tous souffert en martyr, ils ont tous fini en martyr. Et en se rappelant de la bénédiction qui attend tous ceux qui souffrent, nous allons aussi pouvoir supporter patiemment toutes sortes d'épreuves et de difficultés en nous rappelant que l'objectif du Seigneur est de nous sanctifier au travers de l'épreuve. Et finalement, nous allons pouvoir supporter patiemment toute épreuve, toute souffrance, toute persécution, en n'oubliant pas que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et bien, je vous invite à terminer avec ce cantique, le cantique écrit par un homme qui a aussi passé par des épreuves. Il a perdu beaucoup de choses, toute sa famille. C'est le numéro 411, « Quel repos céleste ?» La seule personne qui est restée, c'était sa femme. Donc, « Quel repos céleste ?» Numéro 411, « Sur les ailes de la foi. » Et je vous invite à vous tenir debout pour entonner avec moi ce cantique qui nous encourage à être patients dans l'épreuve.